Ce magazine que vous allez suivre est une production de la Panapsi avec le soutien du gouvernement basque, du Forum Rural Mondial et de INADES Formation. Vie et avis du monde paysan. Vie et avis du monde paysan. Votre magazine d'information et de sensibilisation sur l'agriculture familiale.
La Panapsi et la décennie de l'agriculture familiale, c'est le thème de ce tout premier numéro de votre magazine Vie et avis du monde paysan. Et pour en parler, je reçois pour vous Madame Agbassi Adrienne, présidente nationale de la Panapsi, Dr Trénoël, coordonnateur de l'USOCOVI SH, entendez l'Union des sociétés coopératives de vivriers et d'élevage du Haut-Sassandra. Il est également président de la Panapsi dans la même région. Nous avons également avec nous Madame Kone Salimata, sociologue de formation, consultante agriculture familiale à INADES Formation. Je suis Wenceslas Yoboué, bonjour à toutes et à tous et merci de prolonger l'écoute pour découvrir la Panapsi et ce qui justifie son existence, c'est-à-dire l'agriculture familiale.
Vie et avis du monde paysan.
Madame Agbassi, bonjour.
Bonjour.
Madame Kone, bonjour.
Bonjour.
Docteur Tré, Noël, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous allons parler d'abord de la Panapsi. Et donc, Madame la Présidente, présentez la Panapsi à nos auditeurs.
La Panapsi, c'est la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, née en 2013 à l'initiative de l'INADES Formation et d'autres acteurs institutionnels de la société civile. Sa mise en place a eu lieu dans le cadre de la célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale, AIF 2014, programmée en 2011 par l'ONU. C'est une plateforme de plaidoyer paysan. Elle regroupe les organisations paysannes, rurales, de la société civile ayant une mission commune de l'agriculture familiale et qui adhère à toute initiative de promotion de celle-ci.
Bien, et quelle est sa mission ?
Sa mission est de plaider pour l'élaboration et la mise en œuvre effective de mesures politiques et programmes publics pour soutenir le développement de l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire. Ses volets d'action sont, entre autres, l'information et la sensibilisation des populations sur l'agriculture familiale, les politiques et programmes publics de développement agricole, la création de mécanismes de dialogue et de mise en réseau des organisations paysannes d'une part, entre elles-mêmes, et d'autre part, entre d'autres agents de développement agricole rural.
Madame, pouvez-vous nous parler de l'organisation et du fonctionnement de la Panapsi?
En termes d'organisation et de fonctionnement, la Panapsi s'est dotée de différents organes. L'Assemblée générale, le comité de pilotage, le commissariat aux comptes, les commissions thématiques et les plateformes régionales.
Tout à l'heure, vous avez parlé de comité de pilotage. Comment il est composé?
Le comité de pilotage compte 9 membres, que je salue et remercie au passage pour leur engagement. Ces membres sont la CENAVICI, qui est la Confédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire qui assure la présidence, l'Association nationale des sémenciers de Côte d'Ivoire, ANASEMSI, qui assure la vice-présidence, et INADES Formation qui assure le secrétariat technique. Nous avons aussi la Convention de la société civile, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, l'ONG UKAMI, la Fédération des producteurs de petits ruminants, la société coopérative Défi Café Cacao et la Chambre nationale de l'agriculture.
Et qu'en est-il des plateformes régionales?
Les plateformes régionales sont, quant à elle, des démembrements locaux de la Panapsi. Sur les 31 régions du pays, 15 plateformes régionales sont déjà fonctionnelles.
Et combien de membres compte la Panapsi à ce jour?
La Panapsi compte plus de 700 organisations membres, un nombre qui est appelé à croître, car la plateforme ambitionne de couvrir toutes les autres régions ivoiriennes.
Merci Madame Agbassi pour cette présentation succincte de la PANAPSI. Docteur Tré, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment l'organisation se fait au niveau des régions?
Merci. Au niveau des régions, il faut d'abord dire que c'est le comité de pilotage et INADES Formation qui travaille à la mise en place des comités régionaux. Et au niveau des comités régionaux, il faut dire que notre premier travail, c'est de continuer l'implantation. Et après la mise en place du comité régional, il faut travailler pour la mise en place des délégués départementaux. Ensuite, il faut aller au niveau des sous-préfectures pour installer les comités sous-préfectoraux. Et dans chaque village, nous installons ce que nous avons appelé les comités locaux de veille pour la sécurisation foncière rurale, qui sont les représentants directs de la PANAPSI. Donc voilà au niveau organisationnel comment ça fonctionne au niveau de chaque région.
Merci beaucoup Docteur Tré. L'INADES Formation en sa qualité de secrétariat technique de la PANAPSI est représentée dans ce magazine par Madame Kone Salimanta qui va nous instruire sur le concept de l'agriculture familiale. Madame Kone, donc dites-nous de manière claire ce que c'est l'agriculture familiale.
Merci. Selon la FAO, l'agriculture familiale, y compris toutes les activités agricoles pratiquées dans un cadre familial, est un moyen d'organiser la production agricole, forestière, halieutique, pastorale et aquacole, qui est gérée et conduite par une famille et repose principalement sur le travail familial, tant celui des femmes que celui des hommes. L'exploitation agricole et la famille évoluent l'une avec l'autre, et l'une par l'autre. Elles combinent des fonctions économiques, environnementales, sociales et culturelles. Il faut donc retenir que cette agriculture est celle-là même qui est portée par la famille, papa, maman, enfant et même les grands-parents qui s'y impliquent parfois.
Et en ce qui concerne les caractéristiques, comment on arrive à savoir que ça, c'est l'agriculture familiale? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus?
Il faut retenir que pour ce qui est de cette forme de production, elle se distingue carrément de ce qu'on appelle les productions agro-industrielles. Donc c'est vraiment tout ce qui est, je ne dirais pas dans l'informel, mais ce n'est pas tout ce qu'on entend au sujet des agro-industries et de l'agro-business. Donc pour ce qui concerne les caractéristiques de l'agriculture familiale, il faut retenir que la main-d'œuvre est avant tout familiale. Mais un recours à d'autres types de main-d'œuvre n'est pas exclu. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec la famille et si besoin est, on va recourir à la main-d'œuvre externe. L'unité de production et les facteurs de production appartiennent en fait à la famille. Les produits sont principalement destinés à la satisfaction des besoins de la famille qui travaille sur cette exploitation. Ensuite, le surplus peut être vendu et c'est une forme, une manière de contribuer à la sécurité alimentaire. Les savoirs et savoir-faire traditionnels sont transmis d'une génération à l'autre. Il y a aussi les pratiques au niveau de l'agriculture familiale qui sont agroécologiques. Donc l'environnement et la biodiversité sont moins agressés et leur gestion est durable au profit des futures générations.
Sur ces propos de Madame Kone, nous vous proposons, chers auditeurs, un bref point d'information sur l'agriculture familiale avec Bénédicte Wabo.
Environ 80% de la nourriture consommée dans le monde provient de l'agriculture familiale. En Côte d'Ivoire, 60% de la population active vit de l'agriculture et l'agriculture contribue à au moins 20% du PIB. Un comité national est actif depuis 2013 pour la promotion de l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire. La décennie de l'agriculture familiale offre 10 années à la PANAPSI pour mieux positionner l'agriculture familiale.
Voilà ces chiffres qui montrent clairement le rôle important joué par l'agriculture familiale dans le monde et en Côte d'Ivoire. Pourtant, ce type d'agriculture est confronté à d'énormes difficultés dans notre pays. Madame Agbassi, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs familiaux?
Les difficultés de l'agriculture familiale s'est fait sentir au plus maintenant, parce qu'auparavant, la famille était très unie et faisait l'agriculture familiale, mais les difficultés se sont accentuées par rapport à l'éclatement
des familles,
par rapport aux difficultés d'avoir des terres parce qu'il y a eu le redressement, il y a eu la densité de la population. Donc, les terres...
Il n'y a plus de terres disponibles pour tout le monde.
Voilà, disponibles pour tout le monde. La difficulté majeure aussi, c'est que il y a eu des évolutions dans les techniques de production ont évolué. Ce n'est plus la production familiale en tant que telle, mais il fallait quand même aussi, bien qu'on menait la production familiale, il fallait aussi avoir une surproduction pour pouvoir avoir des biens extérieurs, c'est-à-dire se faire de l'argent pour pouvoir payer d'autres choses. Donc, il y a eu l'esprit de pouvoir grandir la production. Mais pouvoir grandir la production, il faut posséder la terre, il faut posséder la main-d'œuvre, il faut posséder un système écologique adéquat. Il y a eu l'environnement qui a complètement changé.
Le réchauffement climatique.
En fait, des facteurs naturels qui se sont ajoutés qui a fait que nous avons eu des difficultés pour faire l'agriculture familiale en tant que telle.
Madame Agbashi, pour ces difficultés, je sais qu'il y en a encore, mais le temps nous poursuivant, on va progresser, retrouver Madame Koné, justement, elle parlait tout à l'heure des difficultés. J'aimerais donc savoir, avec vous qui suivez de près les actions de l'État, comment l'agriculture familiale est-elle prise en compte dans les politiques agricoles en Côte d'Ivoire?
Dans les textes, dans les discours, l'agriculture familiale est reconnue. On en parle assez. Mais ce qui n'est pas véritablement suffisant, c'est la reconnaissance de l'agriculteur familial lui-même. C'est-à-dire que l'activité est prise en compte, mais l'acteur n'est pas suffisamment pris en compte.
Et face à toutes ces difficultés, on va se demander quelles sont les actions que mène la PANAFCI sur le terrain.
Sa mise en place même est bienvenue pour pouvoir promouvoir un peu toutes les politiques publics qui sont en faveur de l'agriculture familiale. Ce qui signifie que sur le terrain, on essaie de voir aussi comment on peut sensibiliser, former les acteurs de sorte à ce qu'ils puissent savoir déjà ce qui se fait les concernant, ce qui se dit les concernant et leur faire comprendre aussi les textes qui concernent le secteur agricole, toutes les lois et politiques, les programmes sectoriels. Leur faire comprendre, en tout cas leur donner la formation et la sensibilisation qui va avec, de sorte à leur permettre de savoir un peu comment évoluer dans cet environnement-là et réussir vraiment à mener leurs activités pour un peu changer leurs conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, on a des comités qui sont capables d'aller vers des élus locaux pour poser un problème et mener leur plaidoyer. On a essayé de leur apporter aussi des notions de plaidoyer, le minimum qu'il faut pour les rendre capables d'aller vers une autorité locale pour pouvoir poser un problème en partant sur la base d'une proposition de solution selon leurs attentes. On a mené des études aussi pour aller questionner certaines réalités sur le terrain, parce qu'il y a des textes, mais la réalité sur le terrain est différente parfois. Donc on a mené des études pour comprendre comment les choses sont vécues sur le terrain à partir de ces textes ou des lois qui sont votées. Sur la base de ce que la population ou les acteurs sur le terrain nous ramènent comme difficultés, on essaie aussi de les remonter vers le pouvoir public, les pouvoirs publics, de sorte à ce que ces préoccupations puissent être prises en compte et qu'on puisse trouver aussi les solutions idoines.
Docteur Tré, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette liste d'actions que Madame Koné vient de nous livrer?
Oui, les actions sur le terrain sont beaucoup axées sur l'implantation. Ensuite, l'intrant chimique a pris le terrain. Et tout à l'heure, quand la présidente nationale parlait de « on voulait exploiter des grandes superficies », alors les gens utilisent de l'herbicide. Et nous savons que l'herbicide détériore et la terre et même l'alimentation. Donc pour nous, en tant qu'acteurs, on se dit il faut qu'on se sensibilise pour dire non à l'utilisation des intrants chimiques dans l'agriculture. Nous faisons la sensibilisation à la sécurisation foncière rurale. Parce que si chacun veut un lopin de terre qu'il ne gagne pas, ça va entraver la cohésion sociale. Ensuite, nous sommes dit, quand nous regardons l'agriculture, c'est exclu par le système classique bancaire. Alors, aussi longtemps qu'on parle et que nous-mêmes, nous ne mettons pas, en tant qu'acteurs de structures décentralisée qui puisse accompagner l'agriculture, mais aucun bailleur, aucune banque ne pourra nous soutenir. Ça, c'est aussi la réalité du système financier. Donc, nous sensibilisons à la création d'un fonds de solidarité, d'un fonds de développement pour que ça attire l'attention des financiers.
Ce magazine que vous suivez est une production de la PANAFSI avec le soutien du gouvernement basque, du Forum Rural Mondial et de INADES Formation.
Docteur Tré, qui nous parlait des actions de la PANAFSI sur le terrain, nous allons à présent aborder les questions relatives à la décennie de l'agriculture familiale. Madame Koné, 2014, ça a été l'année internationale de l'agriculture familiale. Et l'ONU, qui a institué cette année, a décidé encore d'accorder une décennie à ce type d'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on est arrivé à là?
Il faut retenir que depuis l'année internationale de l'agriculture familiale, où au plan mondial, il y a eu une véritable prise de conscience et une reconnaissance que l'agriculture familiale et les petites exploitations constituent un moyen important de parvenir à une production alimentaire viable, propre à assurer la sécurité alimentaire, faire reculer la pauvreté. Les succès ont donc été salués partout à travers le monde. Et après 2014, on a constaté que les résultats, certes, qui étaient encourageants, mais il y avait encore de nombreux défis qui demeuraient. Une nouvelle campagne alors a été engagée pour solliciter auprès de l'ONU une rallonge du temps accordé aux acteurs concernés et engagés dans la promotion de l'agriculture familiale. Parce qu'on s'est dit, si en un an, 2014, l'agriculture familiale a été reconnue et célébrée, pourquoi ne pas demander un peu plus de temps pour qu'on puisse, dans toutes les activités qui sont en faveur de l'agriculture familiale, aller plus loin et mieux faire. Donc c'est dans cette veine-là qu'en 2017, l'ONU a offert à tous les promoteurs de l'agriculture familiale une décennie qui part en fait de 2019 à 2028, qui constitue en fait les 10 ans.
Et quels sont les objectifs de cette décennie?
L'objectif principal qu'il faut retenir, c'est que la décennie de l'agriculture familiale vise à créer un environnement propice qui permettra de renforcer la place des exploitations familiales sur la scène internationale et d'optimiser leur contribution à la sécurité alimentaire et à la nutrition au niveau mondial, mais aussi à la création d'un avenir sain, résilient et durable, tout en garantissant surtout que personne ne soit oublié.
Ok, après les objectifs, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui sera fait exactement sur le terrain durant ces 10 années?
Durant ces 10 années, il y a un plan d'action mondial qui a été élaboré suite à plusieurs consultations, plusieurs rencontres internationales. Et ce plan d'action mondial fournit des conseils détaillés à la communauté internationale, afin surtout de mener à bien des actions collectives et cohérentes pour la période indiquée, donc les 10 ans.
Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage?
Ce que je pourrais dire, c'est un plan qui a été conçu autour de 7 piliers d'action. Pour le premier pilier, il s'agira de développer un environnement politique qui favorise le renforcement de l'agriculture familiale. En deuxième lieu, il s'agira de soutenir les jeunes et veiller à ce que l'agriculture familiale s'inscrive à travers les générations. En troisième point, c'est de promouvoir l'égalité des sexes dans l'agriculture familiale et le rôle de leadership des femmes, surtout rurales. Le quatrième pilier, il s'agira de renforcer les organisations et les capacités des agriculteurs familiaux à générer des connaissances, à représenter les exploitants et à fournir des services inclusifs à la fois pour l'urbain et le rural, c'est-à-dire les intérêts des communautés en zone urbaine et les communautés en zone rurale seront également pris en compte. Pour le cinquième pilier, il s'agit d'améliorer l'inclusion socio-économique, la résilience et le bien-être des agriculteurs familiaux, des ménages et des communautés dans les milieux ruraux, parce que l'accent est beaucoup mis sur les populations en zone rurale, ce qui n'exclut pas les populations en zone urbaine. Le sixième pilier, c'est d'encourager la durabilité de l'agriculture familiale pour des systèmes alimentaires résilients, surtout face au climat, les questions de changement climatique et tout ce qui va avec. Le septième pilier, enfin, c'est de renforcer la multidimensionnalité de l'agriculture familiale pour promouvoir des innovations sociales qui contribuent au développement des territoires et des systèmes alimentaires préservant surtout la biodiversité, l'environnement et la culture.
Un plan d'action mondial avec 7 piliers, c'est ce qu'il faut retenir maintenant. Parlez-nous du dispositif institutionnel mis en place pour implémenter cette décennie ici en Côte d'Ivoire.
Il faut retenir que au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà, je précise que la PANAFSI a eu l'honneur de participer à 2 événements majeurs sur l'agriculture familiale. Donc, en mars 2019, la PANAFSI a eu l'honneur de participer à la 6e conférence du Forum rural mondial sur l'agriculture familiale, où beaucoup de décisions ont pu être prises et l'affinement du plan a été aussi réalisé à cette conférence-là. La deuxième rencontre à laquelle la PANAFSI aussi a pu participer, c'est le lancement mondial en mai 2019 de la décennie de l'agriculture familiale, où le plan dont je viens de parler a été vraiment passé en revue avec tous les piliers pour présenter à la communauté internationale et tous les participants ce que les différents piliers prenaient en compte. Donc ça a permis aux participants de savoir toutes les dimensions de l'agriculture familiale qui avaient été retenues et qui seront vraiment traitées tout au long de la décennie. Donc en termes de dispositifs au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut peut-être dire le dispositif à mettre en place parce qu'il n'y a pas encore de dispositif suffisamment scellé qui soit déjà mis en place. Et pour ce dispositif-là, le FIDA et la FAO ont été mandatés par l'ONU pour conduire l'implémentation de la décennie au niveau de chaque État. Donc accompagner les différents gouvernements à implémenter la décennie au niveau de leur pays, en impliquant bien entendu les comités nationaux de l'agriculture familiale. Donc la PANAFSI, dans le cas de la Côte d'Ivoire, va contribuer avec le soutien de ses 2 partenaires techniques et financiers là, à l'implémentation de la décennie au niveau de la Côte d'Ivoire, sans oublier le gouvernement bien entendu qui sera avec les 2 partenaires techniques et financiers et la PANAFSI pour pouvoir implémenter cette décennie en Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais ajouter, c'est que nous avons déjà, au niveau de la PANAFSI, pu rencontrer les 2 partenaires que j'ai cités tantôt, la FAO et le FIDA, et avec qui nous avons déjà présenté nos doléances. Après ces 2 partenaires-là, évidemment, il reste le gouvernement. Donc nous attendons d'avoir l'honneur de rencontrer les différents ministères qui sont en charge du secteur agricole en Côte d'Ivoire.
Nous insistons sur le fait qu'il est vraiment impératif que ce cadre de concertation soit mis en place afin que nous parvenions à un plan d'action national qui, bien évidemment, se veut consensuel.
Nous avons déjà, au niveau de la PANAFSI, un draft de plan qui a déjà été élaboré. C'est clair que ce draft de plan, à lui seul, ne suffit pas à constituer un plan national de la décennie. Donc, nous entendons que ce plan-là puisse être renforcé après les consultations diverses qui auront lieu à la fois. Bon, c'est fini déjà avec les partenaires techniques et financiers, mais la rencontre devrait se faire de manière multipartite pour que, à la suite de ces consultations-là, notre plan national puisse être élaboré et ainsi tout au long des 10 ans, on puisse vraiment suivre ce plan-là, à l'instar de ce qui sera fait à travers le monde entier et en s'alignant, bien entendu, sur le plan global de la décennie.
Madame Koné, merci beaucoup pour ces informations capitales sur l'agriculture familiale et la décennie qui lui est consacrée. Nous sommes dans la dernière partie de ce premier rendez-vous avec nos auditeurs. Alors, quels sont les appels de la PANAFSI à l'endroit des acteurs du monde agricole et aussi des décideurs?
Nous voulons demander aux acteurs de base de s'approprier du programme d'évolution de la PANAFSI. Nous voulons faire appel aussi aux élus locaux à qui on demande d'accompagner les comités régionaux et aussi à l'État et puis les institutions de nous appuyer pour assurer la sécurité alimentaire en Afrique.
Docteur Tré, quelque chose à ajouter concernant les appels?
Moi, mon appel va à l'endroit des acteurs que nous sommes. Quand on dit à quelqu'un, on va faire ta promotion, ça suppose que toi-même, tu es prêt aussi à aller faire ta propre promotion. Donc que personne, que les acteurs ne croisent pas les bras pour dire que, comme on a dit PANAFSI, sans rien faire, les choses vont tomber du ciel. Rien ne tombera du ciel. Mettons-nous au travail en tant qu'acteurs nous-mêmes et les choses viendront.
Vie et avis.
Vie et avis.
Du monde paysan.
Ces appels de la PANAFSI marquent la fin de ce premier numéro de Vie et avis du monde paysan. Nos invités nous ont fait connaître la Panafsie, l'agriculture familiale et sa décennie. Merci donc à vous, Madame Agbassi Adrienne, présidente nationale de la Panafsie, Docteur Tré Noël, coordonnateur de l'USOCOVI SH, entendez l'Union des sociétés coopératives de vivriers et d'élevage du Haut-Sassandra. Il est également président de la Panafsie dans la même région. Madame Kone Salimata, sociologue de formation, consultante agriculture familiale à INADES Formation. Merci à vous également, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième numéro de ce magazine qui va parler de la contribution des femmes à nourrir la Côte d'Ivoire. À bientôt.
Vie et avis du monde paysan. Vie et avis du monde paysan. Votre magazine d'information et de sensibilisation sur l'agriculture familiale. Ce magazine que vous venez de suivre est une production de la Panafsi avec le soutien du gouvernement basque, du Forum Rural Mondial et de INADES Formation.